Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de vous donner les points du sermon, je voudrais simplement préciser que j'ai une place libre encore pour la retraite du mois de mars, l'exercice de Saint-Ignace que je prêche ici près d'Albi, du 18 au 23 mars. Donc si quelqu'un était intéressé, qu'il me contacte le plus vite possible. Nous sommes, mes bien chers frères, déjà maintenant engagés dans le temps de la sainte quarantaine, du carême, temps de grâce, car c'est surtout pendant le carême que le bon Dieu donne ses grâces. Il les donne bien sûr tous les jours de l'année, mais il y a certaines périodes liturgiques qui sont des périodes beaucoup plus riches en grâce, et le carême est certainement la première d'entre elles. Saint Paul, dans l'épître du jour, deuxième aux Corinthiens, nous dit que c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en ce temps favorable du carême, veut nous exaucer, veut nous secourir de ses grâces. Et c'est un temps favorable parce que c'est un temps qui nous permet en quelque sorte de rattraper le péché du premier homme. Il y a une tradition dont je vous ai souvent déjà parlé, mais je voudrais utiliser pour illustrer le temps du carême. Il est une tradition qui dit que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de mourir au sommet du Golgotha, et le Golgotha en araméen veut dire le lieu du crâne. Parce que la tradition précise que sous le Golgotha, sous le rocher du Golgotha, sur lequel notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de mourir, était enterré le crâne du premier homme, Adam. Certes, cette tradition n'a jamais pu être vérifiée historiquement parlant, mais elle est toujours bien présente dans l'esprit des pères de l'Église. Et donc le temps de carême est un temps qui va permettre au deuxième Adam, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, de venir rattraper les conséquences des bêtises du premier Adam, à savoir le péché originel et toutes ces cohortes de malheurs qui ont suivi ce péché originel. On le voit très bien dans ce texte que l'Église catholique a choisi pour le premier dimanche de carême, les tentations. Encore une fois, là on touche un des plus grands mystères certainement dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté, alors qu'il est Dieu, d'être touché physiquement par le démon? Le démon va le toucher physiquement puisqu'il va le transporter dans la cité sainte de Jérusalem et le placer sur le haut du temple. Il va le toucher physiquement une deuxième fois en le transportant sur une montagne très élevée et lui montrant tous les royaumes du monde avec leur gloire. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté d'être touché par le démon? Eh bien, il a accepté d'être touché par le démon pour rattraper justement le premier contact du démon avec Adam et Ève. Adam et Ève ont été touchés par le démon, mais malheureusement, après avoir été touchés par le démon, ils ont accepté l'influence du démon. Notre Seigneur Jésus-Christ sera aussi touché par le démon, mais lui sans accepter l'influence du démon. Et non seulement il n'a pas accepté l'influence du démon, mais il va détruire cette influence. L'antique ennemi du genre humain, le démon, tenta le premier homme, Adam, par la sensualité d'abord, en lui persuadant de manger du fruit défendu. Le démon est passé d'abord par Ève, qui vit que le fruit interdit, le fruit qui était interdit par Dieu, vous ne mangerez pas de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle vit que ce fruit était beau et délectable. Et elle le mangea, puis ensuite poussa son mari dans la même désobéissance. Et donc cette cette première tentation dans laquelle les premiers hommes, Adam et Ève, sont tombés, c'est la tentation de sensualité qui vont les amener à manger de ce fruit défendu. La deuxième tentation dans laquelle ils vont tomber, c'est la vaine gloire. Car le démon leur avait fait cette promesse, vous deviendrez comme des dieux. Et enfin, la troisième tentation, par laquelle le démon va atteindre l'âme d'Adam et Ève, c'est en leur disant, vous saurez le bien et le mal. Parce que vous êtes devenus comme des dieux, vous deviendrez celui et celle qui vont décider ce qui est bien et mal. Au lieu que ce soit Dieu qui vous dit, cela vous pouvez faire, cela vous ne pouvez pas faire, eh bien c'est vous qui allez décider ça. Donc la troisième tentation, c'est tout simplement la tentation de la liberté de conscience. Sensualité, vaine gloire, liberté de conscience, liberté religieuse. Alors, il faut comprendre que avec ces trois tentations que notre Seigneur Jésus-Christ va supporter victorieusement face aux démons, eh bien, il va vaincre le démon. Le démon fut vaincu cette fois par le second Adam et par les mêmes moyens qu'il avait rendu victorieux du premier. Donc, on voit très bien comment le démon va essayer d'abord de tenter notre Seigneur Jésus-Christ par la sensualité en lui disant, dites que ces pierres se changent en pain. Notre Seigneur Jésus-Christ venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, donc il eut faim. Et le tentateur, le démon s'approchant de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dites, si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Et donc c'est ici le symbole de la sensualité, le symbole aussi de la concupiscence de la chair. La concupiscence de la chair qui est justement une conséquence de la sensualité. La sensualité et la concupiscence de la chair sont étroitement liées. Et notre Seigneur Jésus-Christ va répondre, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, contrairement à Adam qui avait succombé à la sensualité en mangeant le fruit défendu, notre Seigneur Jésus-Christ, lui au contraire, va refuser cette sensualité. Alors, le démon va revenir à la charge. Et comme il avait roulé Adam et Ève par la vaine gloire en leur disant « Vous deviendrez vous-même comme des dieux », eh bien, le démon va essayer de tenter notre Seigneur Jésus-Christ de la même façon. C'est la deuxième tentation. Le démon le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas. Car il est écrit, il a donné des ordres à ses anges, à votre sujet, ils vous porteront dans leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Et Jésus va rejeter la tentation de vaine gloire, contrairement à Adam et Ève qui l'avaient accepté, et il va répondre au démon, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et cette deuxième tentation représente cette fois-ci, nous disent les pères de l'Église, la concupiscence de l'orgueil. La vaine gloire, c'est l'orgueil qui correspondait à la tentation, au mensonge que le démon avait utilisé avec Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Et comme pour la troisième fois, pour la troisième tentation, le démon avait obtenu par la liberté de conscience de pousser dans un orgueil fou Adam et Ève de décider par eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, notre Seigneur Jésus-Christ, le démon va essayer la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la troisième tentation. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire et il lui dit, je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant vous m'adorez. Mais Jésus, contrairement à Adam et Ève, va rejeter cette troisième tentation en disant « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras et tu le serviras lui seul. » Donc le démon tenta notre Seigneur Jésus-Christ par la troisième concupiscence, c'est la concupiscence des yeux, donc le symbole des richesses, lorsqu'il lui montra donc tous les royaumes de la terre en lui disant « Je vous donnerai toutes ces choses, tous ces royaumes, si vous m'adorez. » Donc on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ qui rejette trois fois de suite les trois tentations, les trois concupiscences, d'abord la concupiscence de la chair, puis la concupiscence de l'orgueil, puis la concupiscence des yeux, rattrape, écrase les conséquences des trois chutes d'Adam et Ève face au démon. Ils avaient chuté par sensualité, ils avaient chuté par vaine gloire, et ils avaient chuté par la liberté de conscience en acceptant de croire, se prenant pour Dieu, qu'ils pourraient décider par eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Quelle grandeur, mes bien chers frères, dans tous ces textes. L'explication que je viens de vous donner n'est pas la mienne, bien sûr, je me contente, pauvre prêtre que je suis, d'aller chercher dans les pères de l'Église les explications que les pères de l'Église étaient capables de donner. Alors, puisque nous sommes des enfants d'Adam et Ève par le péché, devenons, mes bien chers frères, par les grâces que le bon Dieu a préparées pour le carême, puisque c'est le temps favorable, puisque c'est maintenant le jour du salut, devenons maintenant, par les grâces du Saint-Carême, devenons enfants de Dieu. Nous étions enfants d'Adam et Ève, devenons enfants de Dieu par le jeûne, par les larmes, par les gémissements. N'oublions pas que c'est ce que l'Église nous a proposé à notre méditation. Le jour des cendres. C'est aujourd'hui le premier dimanche de carême, et n'oubliez pas que le carême en tant que tel commence quelques jours auparavant avec le mercredi des cendres. Et le mercredi des cendres, l'Église avait choisi un texte magnifique du prophète Joël. « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, dans les larmes, dans les gémissements. » Donc pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ, rejetant les tentations que le démon nous propose après les avoir proposés à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut, mes bien chers frères, les larmes, il nous faut les gémissements, il nous faut le jeûne. Rappelons-nous les pénitences que les anciens faisaient si généreusement. Le jeûne pour lutter contre la tentation, la concupiscence de la chair, l'aumône pour lutter contre la concupiscence des yeux. Et la prière pour lutter contre la concupiscence de l'orgueil. Et suivons le conseil de Joël à tous les catholiques, puisqu'il nous est choisi, et ce texte est choisi pour ouvrir le carême. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et convertissez-vous au Seigneur votre Dieu, parce qu'il est bon et compatissant, patient et riche en miséricorde, et prêt à s'affliger du mal qu'il envoie. Comme ce texte est étrange. On pourrait s'attendre, en ce début de carême, à ce que l'Église nous rappelle la justice de Dieu. Eh bien, en ce début de carême, la Sainte Église nous rappelle la miséricorde du bon Dieu à notre égard. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, votre Dieu, est bon et compatissant, patient et riche en miséricorde, et qu'il est prêt à s'affliger du mal qu'il envoie. Le bon Dieu, comme il voit que nous ne voulons pas nous convertir, nous envoie des épreuves, il nous envoie des croix, il nous envoie des difficultés, des maladies, que sais-je. Il permet toutes ces choses-là pour nous convertir. Mais il est prêt, nous dit le prophète Joël, prêt à s'affliger du mal qu'il envoie. Il est prêt à revenir en arrière. Il est prêt à regretter le mal par lequel, parfois, le mal physique, les pénitences qu'il nous impose d'une certaine façon pour nous aider à voir la lumière. À cause de notre orgueil, à cause de la concupiscence des yeux, à cause de la concupiscence de la chair, nous ne voyons pas la nécessité pour nous de faire pénitence. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a fait pénitence à notre place. Mais comme il nous aime, il veut aussi que chacun d'entre nous, participions au chargement de sa croix. Alors il va permettre les maladies, il va permettre les épreuves, Il va permettre des difficultés financières, il va permettre des difficultés familiales, il va permettre des difficultés professionnelles. Non pas parce qu'il veut nous écraser, mais parce qu'il veut nous convertir. Donc il faut méditer cette parole du prophète Joël. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est patient et riche en miséricorde. Le temps de carême est un temps de grande richesse spirituelle parce que le temps de carême est un temps où notre Seigneur Jésus-Christ souhaite une seule chose, exercer sa miséricorde parce qu'il est bon et compatissant. Par rapport à rien qu'on appelle Dieu le bon Dieu, parce qu'il est parfaitement bon à l'égard de celui qui veut se convertir. Mais attention, il faut se convertir. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur et à ce moment-là, je me convertirai à vous en vous donnant toutes mes grâces. C'est-à-dire, si je vois dans votre cœur le jeûne, les larmes, les gémissements, alors vous trouverez dans mon sacré cœur la richesse de ma miséricorde. Mais si je ne trouve pas dans votre cœur le jeûne, les larmes et les gémissements, alors vous ne trouverez pas dans mon sacré cœur la miséricorde, mais vous aurez affaire à ma justice. Dieu ne veut qu'une seule chose, mes chers frères. Il veut nous amener au paradis. Mais il sait qu'on ne peut pas aller au paradis sans passer par l'épreuve de la croix. Il a vaincu le pouvoir du démon. Il a rattrapé, en quelque sorte, la malédiction d'Adam et Ève à cause de leur chute, dont j'ai parlé en ce début de sermon. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, justement, ne demande qu'une seule chose, c'est que nous participions à l'instrument qui a permis d'écraser, en quelque sorte, les conséquences du péché originel, et cet instrument que le bon Dieu a utilisé pour rattraper la prévarication d'Adam et Ève, c'est la croix, mes bien chers frères. C'est par la croix que notre Seigneur Jésus-Christ nous sauve. C'est par la croix que notre Seigneur Jésus-Christ nous rachète. C'est par la croix que le deuxième Adam écrase la prévarication du premier Adam. C'est pour cela que cette croix est au Golgotha, au lieu du crâne, sous lequel, encore une fois, le crâne du premier homme, du premier Adam, est enterré. Alors, profitons de ces grâces. Ne laissons pas passer ce temps favorable, ce jour du salut. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le dit, encore une fois, je vous l'ai dit en ce début de sermon, dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens. Chapitre 6, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Ne gaspillons pas toutes les grâces que le bon Dieu a placées pendant ce temps favorable et ce jour du salut. Et comment pouvons-nous atteindre ces grâces qui nous sont préparées? Bien, ces grâces, mes bien chers frères, nous serons donnés par le Saint Sacrifice de la Messe. Pourquoi? Parce que le Saint Sacrifice de la Messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Par le sacrifice de la croix offert d'une manière non sanglante sur l'autel par le prêtre qui agit au nom du Christ, qui est devenu un autre Christ pour chacun d'entre nous, pour nous faire participer aux richesses extraordinaires que le bon Dieu a préparées pendant ce temps de carême, eh bien, il nous faut justement augmenter en nous cet amour de la croix, donc cet amour de la messe, parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a dit, on ne peut pas donc séparer la croix et la sainte messe. Le démon nous propose les trois concupiscences, la chair, les yeux, l'orgueil. Il nous propose des richesses, il nous propose des honneurs, il nous propose l'orgueil. Notre Seigneur Jésus-Christ, par la Sainte Messe, nous rappelle qu'il nous propose trois autres choses. La pauvreté, le mépris, l'humilité. Certes, nous avons, je dirais, à cause des conséquences du péché originel, à cause des blessures du péché originel, nous avons une attraction, je dirais presque naturelle, vers les richesses, vers les honneurs, vers l'orgueil. Mais nous avons une espèce de dégoût presque naturel, encore une fois, pour la pauvreté, pour le mépris, pour l'humilité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ est plus fort que le démon. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner, par la Sainte Messe, justement, l'amour de la pauvreté, l'amour du mépris, l'amour de l'humilité. Alors, mes bien chers frères, en ce début de carême, soyons généreux dans le jeûne. L'Église nous demande, pendant les 40 jours de carême, de jeûner tous les jours, pour tous ceux qui ont entre 20, 21 et 60 ans. Un repas par jour, avec courage. Certes, il peut y avoir des dispenses qui peuvent être accordées, avant été accordées par les curés, par les évêques aussi, pour les gens qui, pour des raisons de santé, pour des raisons d'obligations professionnelles, les gros travaux physiques par exemple, devaient manger davantage. C'est pour cela que l'Église accorde dans certains cas certaines dispenses. Mais en même temps, il faut avoir, en ces débuts de carême, un peu une haine de la dispense qui n'est pas nécessaire. On ne demande pas une dispense dont on n'a pas besoin. Et donc il faut, même s'il faut peut-être manger un petit peu plus, c'est pour ça que l'Église tolère ce qu'on appelle le frustulum, un peu plus à manger le matin, un petit quelque chose à manger le matin, le soir, et puis un repas par jour. Mais l'essence du jeûne reste la même, un repas par jour, mes bien chers frères, tous les jours de carême, sauf le dimanche. N'oublions pas aussi que le mercredi des cendres, également les vendredis de carême, et tous les vendredis de l'année d'ailleurs, ainsi que également que le mercredi et le samedi des quatre temps, à ce jeûne pendant le carême se rajoute l'abstinence, pas de viande. Alors mes bien chers frères, considérons toutes les grâces que le bon Dieu cache derrière ces sacrifices qu'il nous demande pendant le temps de carême, et faisons ces sacrifices avec grande générosité. Demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à aimer faire pénitence. Elle est là au pied de la croix. Elle veut nous conduire à son Fils. Certes, la croix est quelque chose de pénible. Alors, la Très Sainte Vierge Marie, qui est au pied de la croix, elle va nous attirer vers la croix comme elle a attiré Saint Jean. Saint Jean, certainement, ne voulait pas être là au pied de la croix. Il voulait peut-être s'enfuir comme les autres apôtres s'étaient enfuis. Mais elle va le prendre par la main pour l'amener à la croix. Eh bien, la Très Sainte Vierge Marie va faire la même chose avec chacun d'entre nous, mes bien chers frères. La Très Sainte Vierge Marie va nous prendre par la main, va nous amener à la croix, et là, va nous obliger, au pied de la croix, à lever les yeux vers le Sacré-Cœur. Et nous entendrons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. « J'ai soif, sitio. » Et nous verrons ce cœur ouvert sur la croix. Non pas percé, nous disent les pères, mais ouvert, parce que c'est un lieu de refuge, et nous y réfugier dans ce lieu de refuge. Pour avoir la force de porter notre croix, et avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, par cette croix, de monter au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.